Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver et d'accueillir dans ce studio Anna Gueppert, qui n'est pas d'ailleurs ici pour la première fois, donc qui est professeure des universités, qui enseigne l'urbanisme à la Sorbonne, mais qui n'est pas ici cette fois pour nous parler d'urbanisme, mais pour nous parler d'un Polonais trop peu connu en France, le père Jerzy Popiełuszko. Et j'ai le plaisir de retrouver aussi dans ce studio Laurent Touchag, qui est le président de l'association Charles de Foucault. Association des amis Charles de Foucault. Association donc, qui a joué un rôle important, comme nous allons le voir, dans la canonisation de Charles de Foucault. Alors que la canonisation du père Jerzy Popiełuszko, elle est en chemin.
Oui.
Elle est en chemin. Donc, ce que nous allons voir. Mais comme, évidemment, beaucoup de Français connaissent Charles de Foucault et beaucoup moins Jerzy Popiełuszko, je vous suggère, Anna Gueppert, de commencer par nous raconter un petit peu la vie du père Popiełuszko et de nous expliquer pourquoi vous, polonaise mais résident en France, vous êtes intéressée à ce saint personnage.
Oui, merci Dominique. Alors, comment et pourquoi ? La chose est simple, je l'ai rencontré. En fait, lorsque j'étais adolescente, je résidais en France, mais nous allions voir les grands-parents en Pologne. Et ma grand-mère, qui avait souffert une hémiplégie et donc qui était invalide au lit, recevait la visite de ce saint prêtre qui venait régulièrement la confesser, lui apporter la sainte communion et la réconforter. Et en fait, en ce temps-là, l'adolescente que j'étais ne savait pas toutes les persécutions dont il était victime, ne connaissait pas ce contexte. Et la dernière fois que je l'ai vu, dans le hall de ma grand-mère, mon chien le suivait, j'avais un chien, et il a souri en regardant ce chien en disant « Tu me suis comme un agent spécial ». L'adolescente que j'étais a été presque un peu offusquée, j'ai pas compris. Et un mois après, en fait, il était enlevé et torturé et mort. Ma grand-mère, ensuite, nous disait qu'elle avait été elle-même bénéficiaire d'un miracle. Après sa mort, elle a tant pleuré. C'était une vieille personne invalide. Pour elle, c'était une lumière, ces visites. Elle s'est mise à pleurer. Elle a tant pleuré qu'elle avait une infection dans les yeux. Elle a failli les perdre, ses yeux. L'ophtalmologiste est venu chez elle et lui a donné des médicaments en disant « Si vous ne prenez pas... Si vous n'arrêtez pas de pleurer, même malgré les médicaments, ça n'ira pas, c'est trop infecté, c'est trop... Voilà. Et ma grand-mère racontait qu'elle l'a vu, qu'il s'est montré en vêtements liturgiques, qu'il lui a dit « Sophie », c'était son nom, « Arrête de pleurer car je suis heureux » et qu'il a touché ses yeux et qu'à ce moment-là, tout est parti. Et mon grand-père... qui était une personne extrêmement rationnelle, comme c'était les messieurs de ce temps-là, et la famille, tout le monde pouvait témoigner, non pas qu'elle l'avait vu, mais qu'il y a eu un avant et un après radical. Alors voilà, j'ai eu ces petites choses dans ma jeunesse, et puis les choses très grandes, quelquefois on ne sait pas trop qu'en faire. Et c'est beaucoup plus tard, alors que j'étais déjà professeure à la Sorbonne, que j'ai commencé parce que voilà, il y avait une occasion s'est présentée à l'étudier, à me tourner vers lui, la suite on la rencontrera à une autre occasion.
Alors je rappelle d'ailleurs aux auditeurs qu'il s'agit d'une émission en direct et donc vous pouvez envoyer vos questions ou vos remarques par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Oui, alors ce miracle, Laurent Touchag, évidemment, c'est quelque chose de classique, d'habituel dans les canonisations, ou pas toujours.
Ah, il y a toutes sortes de miracles, évidemment. Un très beau récit et qui certainement a été pris en compte ensuite dans le... Non, il n'a pas été... Vous n'en avez pas... La famille n'a pas témoigné, déposé, été interrogé. Ça ne s'est pas rentré dans ligne de compte, dans les grâces reçues alors... via, par l'intermédiaire de... Du père,
la famille n'a rien fait.
Oui.
Et je suis passée récemment dans son ancienne paroisse est organisé le soutien pour son miracle. Et j'ai parlé avec une sœur qui était à l'entrée et qui m'a dit « Madame, s'il vous plaît, écrivez-nous, racontez-nous cela pour que la chose soit consignée. » Puisque effectivement, alors mon grand-père n'est plus, mais mon cousin qui habitait avec eux est encore là. Et donc, nous pouvons effectivement... attesté. Alors, il n'y aura pas toute la documentation médicale.
Parce que voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Même si éventuellement si la, traçabilité
grâce, la traçabilité
de l'état de votre grand-mère avant cet événement, de son état ensuite, par des constats médicaux, on veut dire.
Oui, tout ça est perdu. C'est trop ancien.
Ça peut empêcher que ça ne soit reconnu comme un miracle, mais au moins enregistré comme une grâce. Il y a des témoins qui ne vont pas être des médecins, ou éventuellement des médecins, mais qui n'ont pas exercé leur métier vis-à-vis de votre grand-mère, avant ou après, mais qui l'ont connu. Et témoigner de ce qu'ils ont vu, de l'explication qu'elle donnait, ça peut rentrer tout à fait dans le panel. Excusez-moi, faut que je mette un euro, non, je sais pas. Les grâces qui sont liées à cette vie de ce père et concourir à sa réputation de sainteté, même s'il n'y a pas de décret de reconnaissance d'un miracle dans le cas particulier.
J'ai une question justement pour vous, Laurent Touchet. Finalement, aussi bien Charles de Foucault que Gergy Popielouskou ont été des personnages extrêmement et très largement connus, au moins dans le contexte où ils vivaient. Je pense aussi à des personnages comme le Padre Pio, par exemple. Qu'est-ce que la canonisation peut apporter à quelqu'un qui est déjà très très largement connu? Quel est le sens, finalement, d'une canonisation?
Alors,
parce que quand on a un personnage qui a vécu très discrètement, c'est intéressant de le canoniser parce que ça montre que on peut être une personne tout à fait modeste dans la société et être considéré comme saint par l'Église. Alors que, évidemment, quand on a affaire à des personnages qui sont quasiment des personnages publics, et puis Charles de Foucault a créé une congrégation masculine, féminine, non.
Ah bon, Charles de Foucault n'a rien pu créer. Il a écrit X règles pour essayer de regrouper autour de lui des frères, des religieux, avoir une branche féminine. Il est mort seul, n'ayant pu créer qu'une association, loi 1901, si on veut, c'est avant l'heure, puisque il en avait posé les fondements avant cela et elle a été reconnue par l'Église, son association des frères et sœurs du Sacré-Cœur, mais qui est une association qui regroupe des communautés religieuses, des laïcs, des prêtres, des mères de famille, lui en premier, puis d'autres, voilà. Non, il n'a, religieusement, Charles de Foucault n'a réussi à rien créer. Il est mort, prêtre isolé, du diocèse de Viviers. Il n'a même pas le statut religieux. À sa mort, il n'est pas religieux. Il est prêtre diocésain du diocèse de Viviers. Et il n'a pas réussi. Donc ça, c'est...
Et il n'a pas réussi à faire un seul baptême.
Il a fait des baptêmes d'esclaves qu'il a rachetés.
Si,
excusez-moi. Par rapport à votre question d'origine sur... si on regarde que le cas de Charles de Foucault, je vais un petit peu vous contredire. Dire que de son vivant, il n'est connu que par un réseau de personnes. Il n'est pas universellement connu. Et il a fallu le livre de René Bazin en 1922 pour que la notoriété de Charles de Foucault déborde et se répande dans tout le monde catholique et puis au-delà. Mais... il est connu que du réseau de personnes qui l'a fréquenté, les trappistes, sa famille, les trappistes, quelques militaires, les gens du Sahara. Il n'est pas universellement connu à ce moment-là. Mais ce n'est pas vraiment, tout le sujet, mais c'était pour un petit peu le recadrer dans son époque. Une béatification ou une canonisation, leur grand avantage, c'est qu'elles autorisent officiellement le culte à ces personnes, à ces serviteurs et servantes de Dieu. Elles autorisent un culte, une dévotion officielle, un culte, des messes, des reliques officielles que l'on peut vénérer, etc. Voilà, c'est ça. En plus de, comme dans les cas de non-martyrs, on a une étude approfondie de la vie de ces personnes et de l'héroïcité de leurs vertus, donc on va pouvoir les ériger en exemple dans leur vie, dans leur statut, dans leur état de vie, ce qu'était leur devoir d'état propre, en exemple pour tous les gens qui sont dans cette classe de population, si on veut.
C'est ça. Donc c'est effectivement une procédure très importante et qui est faite de façon très très sérieuse. Ça nous ramène maintenant en Pologne, parce que là, on a avec Jasiu Popescu un cas tout à fait simple, tout à fait ordinaire, a priori. La personne, enfin, vous allez nous raconter un petit peu son enfance. On ne voit rien d'extraordinaire, évidemment. Ce qui est extraordinaire, c'est la rectitude morale, enfin la profondeur, certainement sa vie intérieure. Mais qui était-il ?
Alors effectivement, c'est un enfant qui naît en 1947, le 14 septembre, à l'élévation de la Sainte-Croix, dans une famille paysanne. Ce sont des paysans qui ne sont ni misérables, ni riches. Ils ont 17 hectares de terre de assez piètre qualité. Ça veut dire en gros que la vie quotidienne est faite de travail. La maman, une sainte femme, s'est mariée, est venue vivre dans la maison des parents de son mari. Sa belle-mère, donc la grand-mère du père Popiéouche, est assez souffrante, elle a des problèmes de santé, donc la maman porte tout ce monde-là, en faisant le travail et aussi en donnant une grande force morale. Alors le soir, tous les soirs, on récite le chapelet en famille. La maman a l'habitude de dire que si on ne met pas le bon Dieu en premier lieu, rien de bon ne se passe. Et donc, en définitive, cette famille est menée avec cette conviction. Parmi les enfants, la maman qui est déposée dans le procès de béatification dit que qu'elle a toujours eu le pressentiment que ce troisième était différent. Il était plus fragile, il était moins vif, il ne jouait pas tant à la campagne comme les enfants jouent. En revanche, il aimait lire, il aimait s'instruire dans la foi, et tous les matins, il allait à pied au village où il y avait l'école, donc 5 km de là, de bonne heure, pour aller servir la Sainte Messe avant d'aller à l'école. À tel point d'ailleurs que le curé de ce village qu'il servait, parfois lui offrait un petit déjeuner, un chocolat chaud, parce qu'il disait quand même, il était élevé tôt, il était venu de loin. Mais ça reste une vie de foi, en réalité, toute simple, toute discrète. On ne parle pas de vocation. La nouvelle arrive totalement inattendue, en quelque sorte, hormis la maman qui se doute de quelque chose, mais pas discutée, pas débattue. Elle arrive déjà sous la forme d'une décision. Tout de suite après le baccalauréat, il entre au séminaire. Et si l'on veut avoir une idée de sa personnalité, il y a la lettre par laquelle il se rend, il pose sa candidature. Il écrit en fait qu'il veut entrer en séminaire car je veux être prêtre, ayant un grand amour de ce métier. Point. Et c'est fini, la lettre est finie.
Et il a employé le mot métier.
Alors ça, je ne sais pas comment dire en français, oui, les traductions ne sont pas élevées.
C'est un ministère, justement.
Le mot est assez simple, en fait. Voilà. De façon complète...
C'est ce que je veux dire, il n'a pas dû employer le mot... le vrai
tel
mot.
Qu'il l'écrit, c'est d'une simplicité vraiment élémentaire. Et donc, il entre au séminaire à Varsovie, plutôt que près de son village. Ils sont dans le nord-est de la Pologne. Le séminaire le plus proche se trouve à Białystok. Mais Varsovie, qui est plus loin, l'attire à la fois pour une question spirituelle, c'est que c'est le lieu où réside le primat de Pologne, Wyszyński, qui est emprisonné, qui est un très grand témoin de la foi, qui est lui, pour le coup, adoré, presque, vénéré, idolâtré peut-être, des Polonais. C'est la figure vraiment du catholicisme. Donc il y a cette attirance-là. Et puis il y a une petite considération pratique. La famille, comme je le disais, n'est pas très très riche. Et comme à Varsovie, on a un peu plus d'argent, on est en ville et un peu moins de vocation déjà, eh bien, une partie des frais de scolarité sont pris en charge pour les étudiants un peu modestes. Et donc, en plus, il se dit qu'il pèsera peu à sa famille de cette façon-là. Et le voilà au séminaire.
Oui, c'est une vie toute simple, mais... qui prouve quand même qu'il avait conscience de sa vocation très tôt.
Alors très très tôt, hein. La maman raconte qu'il jouait à la messe. La maman raconte qu'avec des boîtes de conserve et des fils de fer, il avait fait un encensoir. Et puis un deuxième aspect, donc il y a vraiment cette vocation dès le début. Aucune question, c'est linéaire. de l'enfance jusqu'à la fin, il est donné tout entièrement. Et il y a une dimension qu'on voit dès l'enfance aussi, qui est que dans ses relations avec les hommes, avec les personnes, il est très direct, très bienveillant, très chaleureux. Oui. Par exemple, cette grand-mère un peu souffreteuse et puis une autre dame un peu qui est âgée, enfant, il a goût à venir s'asseoir, parler avec elle, leur tenir compagnie. Il est dès l'enfance finalement, alors que les enfants doivent faire des efforts pour cela, ont envie de la vie dans tout son éclat. Il est dès tout petit finalement, partout où il voit de la difficulté, de la souffrance, sans forcément verbaliser les choses, il est attiré, il y va et il se rend présent aux personnes
La miséricorde. Divine.
Divine, vraiment.
Parce que c'est aussi une qualité polonaise. Enfin, c'est quelque chose qui a marqué la Pologne. Et alors, donc, on va évidemment passer assez vite sur ces années de séminaire. Il y a des choses importantes à dire.
Alors oui, il y a une chose importante à dire, c'est que c'est là que commence vraiment le martyre, en réalité, la préparation au martyre. Nous sommes dans la période communiste. Il y a à l'époque des bataillons que l'on nomme cléricaux, dans lesquels on envoie les séminaristes pour les briser, pour briser les vocations. Il est envoyé dans un bataillon comme cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De manière générale, dans ces bataillons, il y avait d'ailleurs de vrais séminaristes et puis des infiltrés qui étaient là pour dénoncer et pour démoraliser. Mais surtout, on leur interdisait même la prière, les sorties, la messe, tout. Et le père Popiehu, enfin l'abbé Popiehuszko, mais pas encore prêtre, le séminariste Popiehuszko, devient le résistant. Et il est la victime de toutes les brimades, et le mot est faible. Quelques exemples. On veut lui enlever sa médaille de Notre-Dame, on veut lui enlever son rosaire, il refuse. Un petit qui porte au doigt un disonnier. Pour cela, il est puni à rester les pieds nus dehors dans la neige parce que c'est en hiver. On lui apprend, entre guillemets, à nager. C'est-à-dire que le chef de bataillon l'attache avec un corde, le jette dans la piscine ou dans l'eau, et quand il se noie vraiment bien, il le relève et il le relâche et il le relève, ce qu'on appelle le waterboarding dans d'autres circonstances. On lui fait faire les latrines en portant un masque à gaz pour qu'il soit complètement étouffé. Beaucoup de sévices en réalité. Et alors, il n'en parle pas. Lui-même, pour ainsi dire, pas. On le sait essentiellement par ses camarades et par une lettre qu'il envoie à son directeur spirituel quand il peut au séminaire, où il dit « Je vous remercie pour votre lettre qui me réconforte. Je n'étais pas sûre si ce n'était pas présomptueux ou imprudent de me mettre en avant comme ça dans la résistance. Merci beaucoup de me rassurer. » Effectivement, il s'est avéré que je suis très dure et qu'on ne me brise pas avec les tortures. Constat. Et puis il passe à autre chose.
Oui, c'est des fortes paroles.
Et il n'y a pas de forfanterie, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de... C'est juste un constat, en fait. C'est très frappant, cette simplicité avec laquelle ces quelques mots nous parviennent. Et tout ce qu'on sait, on le sait par des sources secondaires qui étaient essentiellement ses compagnons d'infortune. Donc, ce séminaire, il a c'est vraiment une préparation au martyr. Et ce séminaire, c'est aussi un lieu, la cause de son parcours, on va dire, de sa carrière ecclésiastique, puisque il est ordonné à la sortie du séminaire, du service militaire, il finit ses études. Il a 25 ans quand il est ordonné, en 1972. Et en fait, il restera jusqu'au bout de santé extrêmement fragile. Ils l'ont détraqué, en fait. Il y a des problèmes de thyroïde, il y a des problèmes d'anémie, il a des nausées, il a des maux de tête, il a des vertiges. Il est très, très, très fragile.
Et qui continueront
et ça sera
toute sa vie.
Oui, oui, oui. et qui expliqueront ces nominations successives. Alors ça, on peut passer très vite.
Oui, je voulais vous poser, est-ce qu'il y a dans la vie du père... J'hésite à dire son nom, excusez-moi, parce que devant une Polonaise...
Non, mais on a le droit à ce micro que nous sommes en France de prononcer Popielusko avec un L Popielusko. À la française, alors que
voulez-vous
c'est...
Alors,
Popielusko.
Alors, en deux mots, nous sommes convenus que chacun le dit à sa façon.
Oui, oui.
Les Français le disent comme ils le lisent, Popielusko.
Popielusko.
Moi, je ne peux pas.
Et oui, bien sûr.
Donc, je le dis comme, comme on le dit en Pologne. Mais le père Bernard Brien, qui est un grand défenseur de vous et qui a écrit un livre dont nous parlerons, l'appelait Popielusko et écorchait totalement son prénom et son nom et a obtenu des miracles par son intermédiaire. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir.
Les auditeurs seront prévenus. Donc, est-ce que dans la vie du père Popielusko, il y a... une méditation sur le martyr, une sorte de préparation en plus de ce que vous venez de raconter, donc les sévices qu'il a subis et les brimades ce que le régime communiste a voulu lui faire endurer pour l'éloigner de la religion. Est-ce que de lui-même, il en a tiré une méditation sur le martyr, une préparation quelconque, quelque chose ?
Oui, toute l'histoire.
Je dis ça parce que c'est le cas dans la vie de Charles de Foucault.
Oui. Alors toute son histoire subséquente est marquée. Et effectivement, il y a une source, il faisait des toutes petites notes, il travaillait beaucoup ses sermons et il y a des textes qui sont travaillés, mais il avait des petits cahiers, des colliers je dirais, où il notait des petites, un petit journal.
Voilà, le diaire de Charles de Foucault.
Exactement, et dans ce petit journal, on le voit successivement s'étonner et s'émerveiller de ce que le bon Dieu lui fasse faire des choses comme ça. On en parlera après, peut-être, de cette guerre contre le communisme, etc. Il sait pas, enfin, c'est incroyable, voilà. Et il attribue tout au bon Dieu, en fait. Donc, quelque part, voilà. Mais dans ce petit journal, on trouve aussi... ce sont des notes, mais à peine quelques mots, parce qu'il était harcelé, donc il avait le temps d'écrire une phrase. Hein. C'est vraiment... Et c'est avec cette simplicité qu'on les connaît. Là, pour le coup, c'est pour lui... mais il y a effectivement des moments où il dit, un moment où il dit qu'il pense qu'il finira martyr. Il y a un moment où il dit, dans ses carnets intimes, alors je suis aux limites de la résistance physique et psychique. Je me sens de plus en plus oppressé par eux. Mais Dieu est bon. Il me donne une force de l'esprit et une force physique au point que je m'en étonne. Même si je passe des nuits très tourmentées. Voilà, ça c'est le constat pendant le chemin. Et puis il y a un jour, en 1984, donc l'année déjà de son martyre, où il écrit « Je n'ai plus peur, je suis prêt à tout. »
Je m'abandonne à vous, je suis prêt à tout. La prière d'abandon de Charles de Foucault. Voilà.
Je n'ai plus peur, je suis prêt à tout.
Faites de moi ce qui vous plaira.
Voilà. C'est exactement ça. Et nous sommes quelques mois avant son martyre, effectivement.
Oui, de toute façon, il avait conscience, évidemment, que le pouvoir communiste n'allait pas le laisser indéfiniment.
Et il a choisi.
Oui. Alors, il faut en venir maintenant, justement...
À cette période-là.
À expliquer comment il s'est trouvé... lui qui était, modeste, très très modeste, très simple, très humble, etc. Il s'est trouvé sous les projecteurs et il s'est trouvé jouer un rôle public très important.
Oui, très bien. Alors, en sortant du séminaire, donc de très petite santé, il est nommé vicaire. Il fait quelques paroisses dans les environs de Varsovie, dans la campagne proche, le suburbain on dirait aujourd'hui. Où on lui donne surtout des tâches auprès des jeunes, comme souvent aux jeunes vicaires. Mais la santé ne suit pas. Alors lui, il joue au football avec les ballons, mais après, au football avec les enfants, et puis après, la santé ne suit pas. Et donc, il fait 2-3 paroisses comme ça. Ensuite, on le met au centre de Varsovie, à Sainte-Anne, qui est, comme le nom de la patronne le sous-entend, hein, qui est la paroisse des étudiants. Donc là, il sera... aumônier d'étudiants et d'étudiants en médecine, et il y aura une partie de combat pour la vie. La Pologne communiste autorise l'avortement, hein, et le promeut même. Et puis, la santé est toujours mauvaise, et donc c'est à cause de cette santé qu'on finit par le nommer à Jolibosch, un quartier qui a été construit dans les années 20, un joli quartier, et où, en fait, il est prêtre résident, c'est-à-dire qu'il n'est même pas vicaire, en fait. Il est auxiliaire, il n'a pas de mission particulière, puisqu'on veut qu'il soigne sa santé. Et c'est à ce moment-là qu'éclatent les événements de 1980. Il est vraiment nommé en 80, hein, juste quelques mois avant l'été 80, l'été où Solidarność éclate. Et pas loin de cette paroisse, il y a une aciérie, l'aciérie Huta Warszawa, l'aciérie de Varsovie, qui a été créée par les communistes pour dire qu'il y avait des ouvriers en ville. Et cette aciérie se joint à la grève. Et donc, il faut imaginer, nous avons là quelques milliers d'ouvriers, c'était des très grands ensembles, c'était des villes dans la ville. Et autour, vous avez l'armée qui campe. Et les gens ont peur. Les Polonais disent, lorsque tu es dans la crainte, tu te tournes vers Dieu. Et donc, les ouvriers passent par des passages, se faufilent sans être vus, et demandent à ce qu'on leur envoie un prêtre, parce qu'ils ne savent pas. Peut-être que ça va charger, peut-être qu'ils seront blessés, morts, qui sait. Et donc, dans ces moments-là, on cherche un prêtre. Et cette délégation d'ouvriers se rend à l'évêché. À l'évêché, on leur dit, on va aller voir la paroisse à côté. Et ils arrivent à la paroisse à côté en disant, voilà, on a besoin d'un prêtre. Et le père Popiełuszko est là et il voit des gens qui volent. Il dit, j'arrive, je viens. Et dans ses petits carnets intimes, d'ailleurs, il raconte que il a été emmené là-bas... par des chemins détournés, passant entre, par des chemins détournés. Puis quand il est arrivé, il y a eu une grande salve d'applaudissements. Alors, il s'est retourné parce qu'il savait pas ce qui se passait. Il a pas pensé que c'était pour lui. Et puis il en conclut, c'était pour le bon Dieu, évidemment. Donc, de là, sans entrer dans le détail, mais de là, il se trouve vraiment directement dans le combat politique. Alors, à la fois, en raison de cette grande proximité qu'il a avec les personnes, parce qu'en fait, il passe des journées à confesser, etc., etc., mais il voit aussi ses ouvriers et ses activistes, il n'y a pas que des ouvriers après, qui sont internés, qui sont... à qui on fait des procès iniques. Alors il se rend, il s'assoit dans la salle du tribunal, quand une de ces personnes, une de ces brebis en quelque sorte, il vient, il s'assoit. Et encore aujourd'hui, les gens disent qu'il était, mais pour ainsi dire, le seul qui venait comme ça. Il venait, il s'assoit, et puis il est juste là, il prie pendant le procès. Il y a un événement marquant, il y a une dame activiste un peu intellectuelle, celle-là, dont le fils a été assassiné par le truc, donc il vient à l'enterrement, il la prend dans ses bras. Il est là, en fait, il est toujours là. Donc il y a cette présence, et cette présence, elle est fâcheuse, parce que cette présence, elle soutient le moral des troupes, en fait. Et en plus, elle sème la confusion aussi parmi ceux qui sont censés les persécuter. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect plus intellectuel, disons, plus politique du combat, qui est que son curé, le père Bogutski, alors qu'il, lui, est un prêtre à l'ancienne, un grand personnage, un héros de la solide, d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre. Et il restaure une tradition polonaise de toute la période des partages de la Pologne, qui est la messe pour la patrie. Et donc, une fois par mois, le dimanche soir, il y a une messe qui est dite pour la patrie. Et le père Bogutski dit quelques messes, et il s'aperçoit, un jour, il se fait remplacer par ce père Popiełuszko, et il s'aperçoit qu'il y a vraiment une transfiguration, que ce prêtre discret, à l'allure insignifiante, avec très peu de voix d'ailleurs, il ne parlait pas fort. Quand arrive le sermon, la messe pour la patrie, il devient, en quelque sorte, il porte. C'est pas la voix qui change. Alors il travaille bien, il prépare, il écrit très soigneusement les textes qu'il lit. Il n'y a pas d'improvisation, il les lit. Il les lit avec application, un peu presque comme un texte scolaire à la limite au départ. Mais les gens écoutent. Et il y a des choses très profondes dans ces textes-là. Et donc son curé, qui a vraiment une relation très paternelle à ce prêtre, ce jeune prêtre, va lui confier vraiment les messes de la patrie. Et du coup, autour de cette paroisse et de sa personne, va s'agglutiner, alors pour le coup, vraiment toute une opposition politique, d'ailleurs y compris des gens qui ne sont pas catholiques du tout, mais qui profitent de l'occasion, enfin du tremplin. Au départ, ce sont les croyants, mais après, c'est tous ceux qui s'opposent au régime. Et nous sommes dans un moment, effectivement, où tout le monde s'oppose au régime en Pologne. Donc,
je voudrais ajouter pour les auditeurs que la Pologne a ceci de particulier, c'est que historiquement, l'Église a toujours joué un rôle qu'elle n'a pas joué dans beaucoup d'autres pays, puisque le partage de la Pologne a fait que l'identité polonaise était portée par l'Église, et seulement par l'Église. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une dimension politique dans le témoignage de l'Église tel qu'il est vécu en Pologne.
Absolument. Et par exemple, en Pologne, il y a un dicton, Polak to katolik, un Polonais est un catholique. Il y a vraiment une assimilation entre le fait d'être Polonais et le fait d'être catholique. Alors c'est malheureusement... Peut-être que ce n'est pas aussi vivant aujourd'hui que ça l'a été pendant tout au long de l'histoire. Mais en tout cas, effectivement, à l'époque du père Popiełuszko, quoi, c'est complètement encore le cas. Au fond, on est polonais, donc on est catholique. Voilà.
Donc les messes pour la patrie deviennent des messes de regroupement un petit peu de tous ceux qui sont...
Cela devient
par le régime, c'est-à-dire l'immense majorité de la population, parce qu'on a le Parti communiste, c'est par définition, c'est une minorité active.
Oui.
Et donc, il n'y a que quelques pourcents de membres du Parti communiste, et donc le pouvoir s'exerce en dehors de la population. Alors que l'Église a, elle, une structure paroissiale ou autre qui fait qu'elle a une présence institutionnelle partout.
Oui, les messes pour la patrie deviennent un point de ralliement. Alors, il y a aussi tous ceux qui ont peur, parce que, attention, hein, chaque dimanche, après la messe, pas la vraie messe, mais je veux dire la messe ordinaire de la paroissiale, on sait qu'on aura des milliers de personnes. Donc, on ouvre l'église, on prépare des tas de choses pour que ça puisse, parce que les gens sont dehors, sont dedans, pardon. Mais arrive aussi l'armée. Qui encercle toute la place. Il y a un parvis et une allée qui prolongent ce parvis, en fait. Et donc, tout le secteur est encerclé. Et on ne sait pas à quel moment il sera fait usage des canons à eau, par exemple, très régulièrement. Donc, on y va, mais on ne sait pas comment... Enfin, on ne sait pas dans quelles conditions on va ressortir non plus. Il y a toujours ce jeu de pression, enfin, qu'on connaît bien dans les régimes d'oppression. Et effectivement, ça devient un lieu où, après la messe, on lit des textes de poètes polonais, des acteurs très connus se produisent, enfin après, hein, bien sûr, la messe, mais donc ça devient un lieu de ralliement aussi de toute une opposition. Et donc là, pour le coup, pour le pouvoir, ça devient
c'est une contestation,
énorme épine dans le pied. Et je n'ai pas la preuve, mais je pense aussi que il y a quelque chose de la haine, parce que la manière dont le centre, le cœur de son message, son motto, et ça vient de Saint Paul, c'est « il faut vaincre le mal par le bien ». Il n'y a absolument rien de méchant, il offrait du café à ses agents qui le suivaient, quand ils lui ont fait une... parfois il éclatait de rire en disant « Attends, là, vous exagérez, il y a eu des pièges qui ont été tendus, etc. » Il était vraiment très, très libre de toute haine, de tout cela.
Oui, et c'est cela qu'il enseigne,
en fait.
Comme des personnes et...
Voilà. Et en fait, ce qu'il enseigne, ce qu'il répand, c'est vraiment cet amour de la vérité, de la charité, en partant du principe que de toute façon, c'est inéluctable, elle ne peut que gagner. Par exemple, sur la vérité, La vérité réalise toujours l'unité et l'union entre les hommes. La grandeur de la vérité intimide et démasque les mensonges des hommes médiocres et craintifs. Depuis des siècles, le combat contre la vérité dure sans cesse. Mais la vérité est immortelle, tandis que le mensonge périt d'une mort rapide. Voilà pourquoi, point n'est besoin d'un grand nombre de personnes pour dire la vérité. Le Christ a choisi un petit nombre de disciples pour annoncer la vérité. Le mensonge doit se parer de beaucoup de mots car il est épicier. Il faut sans cesse le renouveler comme la marchandise dans les rayons. Il doit être toujours nouveau. Il doit avoir beaucoup de serviteurs qui, selon le programme, l'apprendront pour aujourd'hui ou demain ou pour un mois. Ensuite, on inculquera rapidement un autre mensonge. Il faut beaucoup de personnes pour contrôler toute la technique du mensonge programmé. Il n'en faut pas autant pour dire la vérité. Les hommes trouveront. Les hommes viendront de loin pour trouver des paroles de vérité. Car il y a au fond de l'homme un désir naturel de vérité.
Et évidemment, ça ne peut pas plaire au pouvoir. En vous écoutant, là, je pensais à un dissident russe, Ivan Brodsky, qui était un poète. Il faisait de la poésie, il n'y avait absolument aucune allusion politique dans ses poèmes, et néanmoins, il a été poursuivi par le KGB, etc. Et alors, il s'est posé la question, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que moi, qui ne fais pas de politique, on peut poursuivre. Alors lui avait une explication qui était la suivante, le poète est au service du langage. Et le gouvernement se sert du langage. Et donc, il y a une antinomie absolue dans le rapport au langage de l'un et de l'autre. Alors, évidemment, dans le cas du Père Poujadjescu, ce n'est pas le langage, c'est l'amour chrétien qui est évidemment l'antithèse absolue du ressentiment et de la haine qui est le combustible du communisme.
Oui, c'est le langage. Ne sert pas positivement l'idéologie du pouvoir, il est un danger et il est un autre être de lumière qui s'oppose au pouvoir. Par lui-même, oui, bien sûr. Quel que soit le sujet dont il traite et la manière dont il soit exprimé, c'est la poésie et les thèmes. Oui, bien sûr, et oui, on le comprend tout à fait.
Alors, il faut en venir maintenant au moment chaud et où ça... Oui. Évidemment, son activité prend une telle dimension que le pouvoir est obligé de faire quelque chose.
Absolument. Et tout à l'heure, à la messe des rameaux, je me disais que si le prêtre est configuré au Christ, dans son chemin, on retrouve vraiment des choses qui ne peuvent pas ne rien nous rappeler, en fait, en tant que catholique, que chrétien. Il y a d'abord le temps des persécutions. Il est emprisonné 14 fois. Il y a 3 attentats contre sa vie. Il est harcelé. Des voitures tournent autour. On lui jette des grenades à travers la fenêtre. Il est suivi nuit et jour. Il appelle ses suiveurs ses anges gardiens. Il est dénigré.
Y compris dans le clergé.
Non, mais par contre, il a peut-être. Alors, il a quand même le soutien du cardinal de l'époque, cardinal Glemp, mais disons que. Voilà. Et en fait, il y a vraiment. Mais en tout cas, si on prend ce que font les pharisiens à la synagogue, on voit cette montée de haine. Et on le suit, on le dénonce, on le coince, on tend des pièges, on trouve un appartement avec des objets pour dire que c'était un acteur politique contre le régime, on lui intente un procès, tenez-vous bien, pour parole de haine. Comme quoi, déjà. Ses confrères s'inquiètent pour lui. Et en fait, le pape, qui est alors polonais, s'inquiète pour lui. Et en fait, le cardinal de Varsovie le convoque et lui propose de l'exfiltrer, en fait, c'est-à-dire de l'envoyer faire des études à Rome. Parce que tout le monde se rend compte, nous sommes en 82, tout le monde se rend compte que c'est très très chaud. Et en fait, il refuse. Il dit, j'ai été donné à ces gens-là, je ne vais pas les abandonner, je ne veux pas. Et son ordinaire ne refuse pas. Hein. Et il est d'ailleurs très reconnaissant au cardinal de ne pas avoir joué sur
et l'avoir laissé
l'obéissance,
sa mission,
ou, voilà, de l'avoir laissé dans sa mission. Alors, il a aussi des aides. Dans son appartement, dans son presbytère, il y a des gens nuit et jour qui viennent juste pour le secourir. Et d'ailleurs, c'est aussi un trait qu'on relève beaucoup de témoins, c'est qu'il est à la fois, il est très proche des gens, et puis après, il est capable de se retirer, se taire, se mettre en prière. Il prie beaucoup. Et il a vraiment cette capacité à sortir vite de l'action, en fait, à se retirer vite de ce qui se passe autour de lui. Et donc les choses vont de plus en plus fort jusqu'au moment où, c'est un 19 octobre 1984, il est allé à Bydgoszcz, il est allé dans une ville. On lui avait demandé, oui, parce qu'il donne aussi des prières dans d'autres endroits, notamment Częstochowa, le Clermont, parce que la Jasna Góra, ça veut dire Clermont, hein, la Vierge de Częstochowa. Et Gdańsk, Sainte-Brigitte, une église où qui sont aussi des endroits comme ça. Donc on lui demande de dire des messes, de porter des prières. Et donc il va conduire un chapelet dans une ville, Bydgoszcz. Les extraits que je vous ai lus sont son dernier chapelet, ce sont ses dernières paroles publiques. Ses bourreaux étaient dans l'église, ils l'ont entendu. Et en fait, sur le retour il a un chauffeur, un monsieur, voilà, ils sont deux dans la voiture. Ils sont arrêtés par des policiers, semble-t-il, qui l'attrapent, qui le frappent, qui le jettent dans le coffre de la voiture, qui menottent le chauffeur et qui le jettent derrière la voiture. Le chauffeur a réussi à donner un coup de pied et à sortir au moment où la voiture commençait à rouler, et donc grâce à cela on a su qu'il avait été enlevé.
Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait un témoin.
Il y avait un témoin grâce à cela. Et puis à partir de là, donc ça c'est le 19 octobre, et puis le 30 octobre, il est repêché, massacré dans la Vistule. Que s'est-il passé entre-temps ? Il y a la version officielle, puisque il y a eu un procès. On sait qui sont les trois exécutants. Le pouvoir avait besoin de se décharger de la responsabilité.
Oui, c'est des lampistes, c'est évident qu'ils voilà. Agissent sur ordre.
Donc on sait qui c'est, ils ont déposé leur déposition qui est minimale, enfin qui est le minimum de ce qu'il a subi dans son martyre. Ils disent qu'ils l'ont arrêté, qu'il a cherché à s'enfuir, donc ils l'ont battu. Que cela s'est passé à trois reprises. Une fois où il s'était arrêté pour prendre un café, il s'était réveillé, il avait essayé de... Ouais. Et puis... qu'en fait, il était tellement provocateur qu'à la fin, ils l'ont ligoté et qu'ils l'ont jeté à l'eau, donc lesté de pierre. Alors ça, c'est une version minimale. La version pleine et entière, je ne la connais pas. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il a été repêché, et là encore, si on parle d'être configuré au Christ, il n'y avait pas un endroit de son corps qui n'ait été battu, pour le coup. Il était vraiment... Voilà. Il a été ligoté d'une manière qui faisait que les mains et les pieds devaient rester pliés, parce que s'il les tendait, le cordon l'étouffait. En fait, s'il tendait les pieds, il s'étranglait lui-même. Et d'ailleurs, la crucifixion est aussi une mort par étouffement, sauf que c'est sous le poids du corps. Donc il y a quand même des...
Oui, des analogies.
Oui, crucifié, mort d'asphyxie. Le mort d'asphyxie, le crucifié.
Oui, il meurt d'asphyxie, oui. Le crucifié. Simplement, c'est pas quand il tire, c'est quand il se laisse tomber. Alors que lui, c'est quand il... Voilà, mais dans les deux cas, c'est un geste que la personne fait pour se sauver, en fait, face à... Voilà. Et donc, à dire vrai, personne n'a jamais trop cru au fait que dans la même journée, il ait été jeté à l'eau. On pense qu'il a été torturé. Ça s'est beaucoup dit, parce que les choses se passent, en fait, se disent. le corps en portait les marques, mais le corps a été assez rapidement. Il y avait quand même un dispositif qui contrôlait la parole. Hein, on ne pouvait pas tout dire à l'époque. Parmi ses amis, certains pensent que sa mort serait le 25 octobre parce que son chien s'est mis à hurler à la mort. On se raccroche à diverses choses dans ces cas-là. Et quoi qu'il en soit, peut-être en saura-t-on davantage parce que vient de sortir un ouvrage, mais que j'ai pas encore eu le courage de lire, et qui est le témoignage d'un médecin légiste qu'il avait examiné à l'époque et qui est maintenant libéré du secret qu'il a porté.
À l'époque, après la mort du père,
le médecin qui l'a examiné.
J'allais vous demander s'il y avait un semblant ou une véritable autopsie.
Il y a eu une autopsie dont les résultats maquillés. Et en fait, le médecin alors je crois qu'il n'était peut-être pas le seul, mais en tout cas, un médecin qui a procédé à cette autopsie vient de sortir un ouvrage. Oui. Je n'ai pas lu l'ouvrage, mais le sous-titre, c'est « Une cruauté inutile
». Donc, dans un deuxième temps, dans le cadre d'un procès de béatification, il y a une reconnaissance des restes aussi du corps. Donc, est-ce que cette reconnaissance, elle a dû avoir lieu, puisque le père est béatifié maintenant ?
Alors, la reconnaissance...
Il est béatifié, hein ?
Oui.
Il est bien heureux.
Absolument.
Donc, il y a eu une reconnaissance de ses restes. Donc, à ce moment, on a ouvert son cercueil, et on a fait, en présence d'une commission, dont des médecins, et on a fait des constats. Donc,
tout à fait. Alors, la reconnaissance...
Quel était l'état du corps à ce moment-là ? Est-ce que vous le savez ? Et est-ce qu'on a pu faire des analyses ?
Oui. Donc, il y a eu deux reconnaissances. Il y a eu quand on l'a trouvé.
Oui.
Et là, en fait, c'est son frère qui a dû le reconnaître.
Oui.
L'identifier,
c'est ça.
Voilà. Et ensuite, lorsqu'il y a eu la reconnaissance canonique pour la béatification, en fait, le corps était dans l'état à peu près dans lequel il a été repêché. Il était pareil. Et il avait toutes les meurtrissures et tous les bleus et toutes les...
Oui, donc dans ce cas-là, une nouvelle autopsie éventuellement est tout à fait possible.
Était faisable, mais a priori, il faudra que je trouve le temps et le courage de lire cet ouvrage, parce que ce sont des lectures pénibles. Mais a priori, ça confirme qu'il a été gravement torturé, en fait.
Alors évidemment, il a été enterré. Et ça a été un enterrement
national.
Particulier.
Alors, lorsqu'il a été retrouvé, il a été emmené dans son village natal. Parce que son village natal, c'est un petit village à l'est de la Pologne, et les autorités voulaient surtout se débarrasser de ce...
Et ne pas faire une cérémonie
de ce sujet.
À Varsovie.
Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le 19 octobre et le 30 octobre, où il a été repêché, les environs de son église ne désemplissaient pas de gens avec des prières, des banderoles, rendez-nous notre saint, etc., etc., mais par dizaines de milliers, déjà sans, avant qu'on l'a retrouvé. Et donc, lorsqu'il a été retrouvé, le pouvoir en place cherchait à ce que les choses se fassent le plus rapidement et le plus discrètement possible. Et donc, ils l'ont emmené vers son village natal. Mais la maman, qui mériterait à elle seule une émission de radio, a dit « J'ai donné mon fils à l'église et je ne le reprendrai pas. Et puisqu'il était au diocèse de Varsovie, eh bien, qu'il soit enterré là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. »
Oui, c'est-à-dire que la volonté d'une mère, même dans la Pologne communiste, pouvait être prise en compte.
Alors je pense que c'est parce que tout le pays le voulait. C'est-à-dire que je pense qu'elle a été la personne qui a fait pencher les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que si elle avait dit « bah oui, c'était les parents, donc du coup on vous rend votre enfant ». Donc je pense que cet acte était en quelque sorte indispensable pour que la chose puisse se faire. Mais je ne dis pas que c'est sa seule volonté qui a suffi. Je pense que si, par ailleurs, il n'y avait pas eu tout le contexte, elle aurait pu dire ce qu'elle voulait. Voilà, c'est, ça s'est joué sur de cette façon-là. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est une très sainte femme et d'une certaine façon, elle participe à la passion de son fils, elle aussi. Elle l'a offert lorsque les... Et elle, elle reste dans sa campagne. On s'en va pas, on travaille. Enfin, voilà, elle a très peu vu son fils pendant cette période. Encore moins qu'avant, en réalité, puisqu'il avait moins la possibilité de passer. Et elle lit le chapelet. Elle lit le chapelet. Et à la fin, elle passe sa journée avec son chapelet à la main. Et elle apprend par la radio ou par la télé qu'il a été enlevé. Et puis par la radio et la télé qu'il a été retrouvé. Et elle l'a donné, elle a dit, voilà, je l'ai donné, je ne le reprends pas, voilà, il appartient à l'église. Et elle est venue à l'enterrement avec son époux. Et elle a trouvé la force de dire que son fils avait été martyrisé, mais que c'était Dieu qui était visé. Et elle a trouvé la force de dire qu'elle pardonnait à ses bourreaux et qu'elle allait prier pour leur conversion.
Oui, c'est évidemment émouvant.
Voilà. Alors et donc, simplement pour terminer avec l'enterrement en tant que tel, officiellement, un demi-million de personnes, Varsovie a 2 millions, le pays en a 30 et quelques. Et d'après les organisateurs, comme on dit dans les émissions politiques, 1 million de personnes étaient dans les rues. Et je ne connais personne en Pologne qui n'y ait pas assisté, par exemple.
Oui, ou connu quelqu'un qui était...
Qui n'est des souvenirs personnels de cet enterrement.
Bon, c'est évidemment à la fois un triomphe et une revanche, et en même temps quelque chose d'extrêmement significatif de l'état du pays et des rapports entre le gouvernement et le pays. Alors nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Dassault, assisté de Bruno, sur le thème « Les canonisations et leurs procédures vues à travers les cas de Charles de Foucault et du père Jerzy Popielewski ». La mission Rosa Mystica aux Philippines en mars 2026. Les invités sont Laurent Touchac, président de l'association Les Amitiés Charles de Foucault, Anna Guépert, professeur des universités, et le docteur Philippe de Geoffroy, rédacteur en chef des Cahiers Saint-Raphaël. Il s'agit d'une émission en direct et vous pouvez envoyer vos questions ou vos remarques par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Voilà, donc nous reprenons cette émission et que nous avions laissée au moment de l'enterrement du père Jerzy Popielewski, enterrement par certains côtés triomphal, et comme nous sommes le jour des rameaux, finalement c'est le bon moment pour en parler. Est-ce que ce triomphe a joué un rôle? Est-ce que la Pologne a changé, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un impact sur la société polonaise?
Je pense qu'on peut dire que oui. Si on prend le fil simplement de l'histoire, on est quand même dans un moment où les choses craquellent. Nous sommes dans un moment étrange parce qu'en réalité, au moment où il est assassiné, l'état de siège a déjà été levé, par exemple. Donc normalement, on devrait être dans la normalité. Et en fait, à mon sens, ce qui se passe, c'est que le régime essaye de construire une normalité, mais dans la continuité de l'ancien régime. Et cet événement fait que ça ne sera pas possible, en fait. Parce que l'état de siège, il était levé. On était dans le cadre d'une espèce de retour à la norme. Alors l'autre chose, c'est que...
Oui, c'est-à-dire que l'enterrement a quand même la dimension d'une protestation contre le pouvoir.
L'enterrement est une protestation. Ce qui s'est passé démontre définitivement aux yeux de chaque Polonais que ce régime est un régime criminel. Alors que jusque-là, on avait les négociations qui s'appelaient de la table ronde, etc. Il y avait des accords, des systèmes d'accords qui se mettaient en place, une tentative de finalement, de compromis et d'avoir un socialisme avec plus de place pour les syndicats, les droits des travailleurs, etc., etc. Et donc, en réalité, finalement, c'est peut-être cet événement qui amène, et c'est au fond ce dont sa vie atteste, qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas en fait, se compromettre, ce n'est pas possible. Finalement, on a beau vouloir le faire, ça n'est pas possible. Et donc, parce que sa mort fait que son martyr est connu quand même, même s'il y a des versions officielles, officieuses, on en parlera, il y aura le procès, donc 2 ans plus tard, à Toruń, qui est délocalisé aussi pour que ce ne soit pas à Varsovie, mais enfin, voilà, donc... En fait, c'est un peu ce qui empêche le régime de faire un retour à la normale. Et c'est ce qui convainc les Polonais qu'il n'y a pas d'autre solution en réalité que d'en finir et que d'en sortir de ce régime-là. Alors, je ne sais pas si les Polonais sont les seuls, mais un grand poète polonais disait déjà au XVIIIe siècle, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes un étendard national pour souligner qu'effectivement les Polonais ont ce besoin de grandes causes, de choses grandioses en quelque sorte pour se mobiliser, que dans la vie de tous les jours on n'est pas forcément toujours au top, mais que lorsque se présente vraiment l'héroïsme, lorsque se présente vraiment quelque chose de grand, alors les Polonais se lèveront comme un seul homme, et c'est un peu ce qui se passe finalement. Et la fin du régime, d'ailleurs, il tombera un petit peu de lui-même.
C'est peut-être d'ailleurs une analogie entre la France et la Pologne, et une des raisons pour lesquelles la France, actuellement, est aussi basse. Nous voulons parler des canonisations. Donc, que s'est-il passé sur le plan du procès de canonisation, et en quoi ce procès était-il semblable à ce qui s'est passé pour Charles de Foucault ou pas?
Alors, pour Charles de Foucault, je ne suis pas assez informée.
réciproquement. Je connais par cœur le procès de Charles de Foucault, mais pas celui de Popiełuszko.
Est-ce que ça a pris du temps ou est-ce que ça a été très vite?
Alors, pour Popiełuszko, en fait, la béatification est prononcée sur le fondement de son martyre. Et elle l'est en 2010. Donc, finalement, on peut dire que ça avance plutôt bien, plutôt vite. Et finalement, c'est quand même, à la limite, pas trop mal que ce soit pas le pape polonais, mais son successeur, finalement, qui le fasse. Il y a un peu une élégance, disons, dans la situation. Et cette béatification, elle a lieu sur la base de son martyre. Pour la canonisation, il faut... aujourd'hui, je crois que c'est un miracle. Normalement, ça aurait dû être deux.
Avant la réforme de 83, c'était deux.
C'était deux.
C'est un accompli après la béatification.
Voilà. Il y a un miracle qui est un miracle français, qui est très bien documenté et qui a été, en quelque sorte, qui a été reconnu en 2015. Le miracle a lieu en 2012. En 2015, il y a une reconnaissance même romaine du miracle, en fait. Mais
ça doit être même un décret signé par le pape.
Voilà. Mais l'affaire s'enlise.
Pour que ce soit, vraiment le miracle.
Il y a une je crois qu'il y a eu quelque chose.
Dans la procédure de canonisation, c'est le pape qui doit signer le décret de reconnaissance du miracle.
Je crois que ce qui s'est passé, en sachant que je ne suis pas totalement infaillible, mais il me semble qu'il y a eu une reconnaissance et des lettres échangées, mais que le décret n'est pas arrivé. Et là, ils m'ont dit, là-bas au sanctuaire, qu'ils avaient à nouveau des nouvelles et qu'ils attendaient ce fameux décret.
Est-ce un miracle de nature médicale, on va dire une guérison
Oui.
Donc à ce moment, il doit y avoir un procès dans le diocèse où a eu lieu la grâce.
Oui.
L'évêque du lieu, l'ordinaire, doit nommer une commission médicale qui va enquêter auprès du miraculé et de son entourage. Et puis... éventuellement théologique, et puis si lui conclut positivement, il envoie tout le dossier à Rome qui recommence les mêmes choses avec d'autres experts médicaux et théologiques. Voilà.
Et en fait, au niveau du diocésain, ça s'est passé. En fait, c'est le prêtre qui a écrit sa biographie qui en est le témoin. Et moi, je l'ai rencontré. Donc, j'ai eu le... En fait, le monsieur miraculé était atteint d'une leucémie qu'il avait depuis 11 ans. Cette leucémie avait connu des rémissions et là une aggravation qui devait lui être fatale, à un point tel qu'on avait depuis 3 jours, avec un scanner où tout avait été scanné et où le cancer était généralisé, on avait arrêté tout traitement hormis le palliatif. Et l'équipe médicale, la psychologue de l'hôpital avait dit à l'épouse, puisque vous savez, votre sœur vient, occupez-vous de l'enterrement. Enfin, c'était voilà, on en était là. Il avait reçu le sacrement des malades avant, et le père Bernard Brien, donc l'auteur de ce livre, le prêtre aumônier de cet hôpital, passe et demande si l'épouse souhaite prier par l'intercession du père Popiełuszko. Et la dame dit oui, c'est des personnes qui sont catholiques. Ils disent cette prière d'intercession et le prêtre s'en va. Et le lendemain, on l'appelle, on lui dit écoute, revenez parce qu'une heure après, le malade s'est levé, il a vécu tout à fait normalement et l'hôpital a documenté. Et donc il y a vraiment le scanner avant, où il n'y a rien, et le scanner, où il y a tout, et le scanner après, où il n'y a rien. Et le prêtre disait qu'il était très embêté, il ne savait pas comment s'y prendre, parce que devant les choses comme ça, on est parfois un peu démunis, bizarrement. Et que ce sont les médecins de Mondor qui lui ont dit au bout de 6 mois, écoutez, allez-y, occupez-vous-en. Donc au niveau diocésain, c'est sûr, c'est passé. Et à Rome, ça stagne. Voilà, ça. Reconnaissance, avec ou sans décret, mais ça stagne.
Oui. Oui, il faut un certain délai que Rome nomme une commission de médecins. Puis quand les médecins disent oui, ensuite on transfère le dossier à des théologiens qui doivent dire est-ce que c'est une réponse de Dieu, à quoi, etc. Il est tranche. Et à ce moment, on soumet cette réponse à la congrégation pour la cause des saints. Les cardinaux votent et on envoie un projet de décret au pape qui signe.
Oui.
Donc le père Frigelusco est béatifié. Oui. Bon, il y a des éléments qui laissent entendre qu'il pourra être canonisé un jour ou l'autre, mais ça n'est pas encore fait. Et par contre, alors, dans le cas de Charles de Foucault, la canonisation est relativement récente.
Elle est de 2022, oui. La béatification de 2005.
Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre
Le procès a été assez long. Déjà, la procédure était plus longue avant 1983 que dans le cadre du père Popiolesco. Il fallait 10 ans avant qu'on ouvre un procès. Charles de Foucault était mort au Sahara. On a mis 20 ans à retrouver des témoins de sa vie pour avoir suffisamment de témoignages. On a mis 40 ans à étudier ses écrits, qu'il fallait aussi trouver à droite et à gauche. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale qui a interrompu les opérations. On a repris les travaux. Il y a eu la guerre d'Algérie, pendant laquelle un certain nombre de prélats ont demandé au pape d'arrêter la cause de Charles de Foucault par rapport à une provocation. Voilà, c'est ça. Et donc finalement, c'est Jean-Paul II, c'est un des premiers actes de Saint Jean-Paul II, quand il est accédé au trône de Saint-Pierre, c'est d'ouvrir officiellement à Rome le procès de béatification de Charles de Foucault en 1978. On avait beaucoup d'éléments étaient achevés, toutes les enquêtes et les études des écrits, mais la cause n'était pas encore introduite en cours dans le procès de la phase qu'on appelle apostolique, qui dépend du pape. Ça a démarré à ce moment, et le postulateur, au bout de 2 ans, a vu qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore faites en réalité, qui étaient compliquées. C'est à partir du moment qu'il a fait appel à notre association, qui existait depuis 1947 et qui était chargée de trouver la documentation, qui creusait sur la vie et les écrits de Charles de Foucault, et non pas sur la spiritualité, même si ça en découle évidemment, qui était surtout une association scientifique, qu'elle est toujours, et a fait appel à nous pour reprendre toutes les affaires de fond, écrire une vie documentée de Charles de Foucault, financer tous les travaux nécessaires à la postulation jusqu'à la canonisation. Voilà, donc, la grande différence avec Popiolesco, c'est que Charles de Foucault n'a pas été béatifié comme martyr. C'est un scandale pour certains, ça a fait polémique, et je pourrais rouvrir la polémique aujourd'hui, je ne le ferai pas, mais ça provient aussi de la nature de la procédure. Quand Mgr Nouet, vicaire apostolique du Sahara, a ouvert la cause de Charles de Foucault, il a commencé à avoir de l'information et des documents, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à prouver que Charles de Foucault était mort en martyr. Parce que, voilà, à ce moment-là, les règles de l'Église étaient telles qu'il fallait des témoins qui ait entendu Charles de Foucault refuser de renier la foi, etc. Ce qui n'était pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas.
Et si on engageait la procédure dans le cas d'une reconnaissance de martyr et que ça échouait, c'était fini de la cause de Charles de Foucault. On ne pouvait pas rouvrir sous un autre titre.
D'accord.
Donc, par prudence, il n'a pas demandé le martyr. Et donc, la cause s'est déroulée sans demander le martyr. Après, certains en ont profité pour dire, de toute façon, c'était une opération de guerre. C'était un brigandage qui a mal tourné, ce qui est faux. Au moment de la canonisation, le postulateur et moi, je suis obligé de me citer, nous avons dû remonter un peu le courant pour expliquer que ce n'est pas un acte de brigandage, que ceux qui l'ont tué, peut-être que sur le moment, ils s'y sont mal pris et Charles de Foucault aurait pu rester vivant. Il n'est pas nécessairement pour le tuer, mais en tout cas, ils s'en sont pris à lui. Parce que c'était le marabout chrétien, parce qu'il avait une influence chrétienne au Sahara, parce qu'ils avaient peur de cette influence, et qu'eux-mêmes étaient des musulmans fanatiques. Voilà. Donc, et beaucoup de textes à l'époque de sa béatification ou de sa canonisation, de prélats, de gens de Rome, en 2000, dans le jubilé des martyrs du XXe siècle, la Congrégation pour la cause des saints a mis Charles de Foucault, alors qu'il n'était même pas encore bien heureux. Il venait d'être reconnu comme vénérable. Oui. Donc on n'a pas hésité, Rome n'a pas hésité, mais le titre définitif n'est pas martyr, c'est confesseur de la foi. Voilà. Mmh. C'était long, donc, parce qu'ensuite, on n'avait pas de miracle. Donc, on a mis de 80 à 95 à répondre à toutes les questions de fond que sur lesquelles Rome ne voyait pas encore très clair, parce qu'il y avait eu des mélanges d'interprétations par les opposants de la personnalité de Charles de Foucault et de son rôle au Sahara, et par même certains de ses disciples qui partaient dans certaines idées assez moderne, pour ne pas dire moderniste ou progressiste, de la vision du missionnaire, de l'enfouissement. Charles de Foucault ne voulait pas convertir. Simplement. Il a fallu prouver le contraire et expliquer que Charles de Foucault était conforme aux volontés du Christ et à sa demande exprimée dans l'Évangile, les derniers versets de l'Évangile selon saint Matthieu, et qu'il était venu pour essayer de baptiser tout le monde et amener tout le monde au Christ.
Et pourquoi serait-il
Il fallait le prouver, l'expliquer, puis d'autres aspects. Voilà. Donc ça a mis du temps. Et après, comme il y a eu beaucoup de causes à l'époque du Saint-Pape Jean-Paul II, Et Charles de Foucault n'était pas sur le haut de la pile. Il a fallu que les postulateurs se battent pour que Charles de Foucault remonte un peu dans le... Et puis, on n'avait pas de miracle. Et donc, il a fallu aussi trouver... Bon, finalement, il y a un miracle qui est assez proche du vôtre. C'était en 1980, à Milan, mais on l'a appris qu'en 2001, ce miracle. Et les personnes, la miraculée, elle et son mari, ne se sont manifestées que 20 ans après avoir été bénéficiaires de ce miracle. Un cancer des os généralisé en phase terminale. La personne rentre pour... En soins palliatifs, elle doit mourir le lendemain. Le lendemain, quand on revient, elle n'a plus rien. Et dans la nuit, son mari a prié Charles de Foucault, par l'intercession de Charles de Foucault. Et voilà.
Il est important, je pense que les auditeurs rendent compte que les procédures de béatification et de canonisation sont des procédures extrêmement rigoureuses et que l'Église ne se précipite pas du tout pour ce genre de...
C'est très rigoureux, c'est beaucoup plus rigoureux qu'un procès civil, que tout procès civil, et c'est en plus une... Les poupées russes, c'est un emboîtement de procès dans le procès. Il y a le procès sur les écrits, il y a le procès sur la réputation de sainteté, il y a le procès sur le non-culte, évidemment. Une grande erreur dans les causes des gens qu'on aime bien, c'est de leur vouer une dévotion par des prières et par des invocations ou un culte avant qu'ils soient sur les autels. C'est une raison pour laquelle l'Église va arrêter une cause et dire « c'est fini ». Il y a le procès sur... puis ensuite sur les procès sur les miracles. Et voilà, c'est un emboîtement de procès et... au niveau diocésain dans un premier temps, et ensuite, quand l'évêque diocésain finit son travail, il transfère tout à Rome, et on recommence tout à Rome. Alors, il y a des causes peut-être qui sont très simples. Dans le cas de Charles de Foucault, c'était compliqué, parce qu'il a vécu en beaucoup d'endroits, parce qu'il a connu quand même beaucoup de monde, parce qu'il a beaucoup écrit, et puis parce que son message a été pas mal troublé pendant 30-40 ans, a été fortement troublé. C'est bien que la Congrégation pour les causes des saints, au début des années 80, nous disait... Mais nous ne comprenons pas du tout ce qu'il est allé faire au Sahara. Mais quel était le projet de cet homme? Quel rapport avec l'Évangile? Voilà, c'était tellement brouillé qu'il fallait remonter tout le courant.
L'Église avait changé. Et comment fait-on, là je m'adresse à vous, Anna Guépert, pour s'informer sur le père Popielusko? Quand on est francophone, qu'on ne connaît pas le polonais...
Alors, il y a quelques livres. Un livre... qui a été écrit par le père Bernard Briand, ce prêtre qui a obtenu le miracle. Mmh. Il en a d'ailleurs obtenu plusieurs. Il est décédé en août, ce père Bernard Briand. Ça s'appelle « Jerzy Popiełuszko, la vérité contre le totalitarisme » et on y trouve une biographie rédigée par ce prêtre, ainsi que par ce prêtre français, ainsi que le récit du miracle lui-même. Et puis, il y a eu un certain nombre de textes du père Popiełuszko qui ont été traduits vers le français à l'époque. Il y a eu ses carnets intimes, il y a un texte qui s'appelle « Repères spirituels », c'est chez MAM, traduit du polonais à l'époque. Et puis, il y a « Le chemin de ma croix » qui contient des traductions de ce qui était lu et de ses homélies dans ses messes pour la patrie à Varsovie. Je voudrais également mentionner qu'il y a des personnes qui aiment le cinéma et qu'il y a deux films qui le concernent. L'un que je ne conseillerais pas, qui est un film français de Madame Hollande et qui s'appelait Le Complot, je crois, mais c'est mené à la manière d'un thriller. Et un film polonais, mais qui est disponible, c'est Sage qui le distribue, et qui s'appelle Popiełuszko. La vérité est en nous, ou quelque chose comme ça, qui est sorti en 2009 et qui a un côté très documentaire, justement, biopique, et qui est plutôt bien si on a envie de ce médium-là.
Et sur Charles Foucault, est-ce qu'il y a un livre que l'on peut conseiller?
Donc, notre association, ça s'appelle Les Amitiés Charles de Foucault, elle est 56 rue du Val-d'Or, à Suresnes, 92-150. Évidemment, on peut nous écrire, nous avons une revue à laquelle on peut s'abonner. Les livres, c'est... il y a évidemment le René Bazin, qui est le livre historique qui a fait connaître Charles de Foucault, qui est souvent réédité. Et je recommande en plus aujourd'hui les deux livres de celui qui était l'archiviste de la cause pendant 35 ans, Pierre Sourisseau, aux éditions Salvator, une biographie écrite à l'occasion de la canonisation en 2016. Ça s'appelle simplement Charles de Foucault, biographie, par Pierre Sourisseau. Et le livre qu'il a sorti... c'était pas la canonisation en 2016, excusez-moi, le centenaire. Et pour la canonisation, ça s'appelle Les Lumières d'un phare, et c'est un descriptif des grands traits de la spiritualité de Charles de Foucault. Et puis évidemment, on doit lire Charles de Foucault dans le texte. Les postulateurs et nos spécialistes maison ont édité la totalité de l'œuvre spirituelle de Charles de Foucault aux éditions Nouvelle Cité. Ça s'appelle Charles de Foucault, écrit spirituel. Il y a plus de 20 volumes qui sont à disposition.
Voilà, donc avis aux lecteurs, aux auditeurs qui sont aussi des lecteurs, et je crois qu'ils sont un certain nombre. Et nous allons maintenant donner la parole au docteur Philippe de Geoffroy, qui est à distance et qui va nous rendre compte de la mission Rosa Mystica aux Philippines au début de ce mois, finalement. C'est tout récent.
Voilà, oui, c'était au début du mois de mars, oui. Donc, grâce au miracle de la technologie, je suis avec vous du fond du Pays Basque. Cette année, c'était la 19e mission Rosa Mystica. Je rappelle très rapidement pour les auditeurs que c'est une mission médicale et apostolique, pour rebondir sur l'histoire du père de Foucault, c'est-à-dire que nous allons aux Philippines pour donner des soins et aussi pour apporter le bon Dieu aux pauvres Philippins qui, on sait quand même un pays qui est resté assez catholique, mais c'est très superficiel. Il y a 19 ans, le docteur Diques, qui vous précédait dans votre émission, avait fait une tournée de conférences aux Philippines avec l'abbé Daniel Couture, qui était supérieur de district de la Fraternité Saint-Pédis en Asie. Il avait fait une tournée de conférences de bioéthique. Et suite à cette tournée de conférences, il a mis en place une mission médicale et apostolique. La première a eu lieu en 2017. Et cette année, c'était la 19e. Il y en a une qui a sauté l'année du Covid. Alors, nous étions une quarantaine de volontaires de pays différents, en plus de tous les volontaires philippins. Cette année, il y a eu un renouvellement. Il y a eu pas mal de jeunes médecins, notamment de médecins françaises, plusieurs femmes médecins françaises. Il y a eu également une pédiatre américaine. Donc, on avait deux pédiatres, parce qu'on a une pédiatre philippine qui est très fidèle depuis de nombreuses années. On a un radiologue qui est venu avec un appareil d'échographie. Et avec tout ça, tous les jours, on partait dans un village différent. Les premiers jours, on allait dans les montagnes un peu éloignées. On avait 2-3 heures de route sur des pistes avec les jeunes volontaires dans des camions-bennes. Enfin, c'était quelque chose d'assez rustique et assez joyeux aussi. Ça plaît beaucoup aux jeunes.
Oui, et je compléterai ce que vous venez de dire. Enfin, peut-être rappeler que les villages dans lesquels vous allez sont des villages dans lesquels il n'y a jamais de médecins.
Voilà, oui,
donc
tout à fait.
Les Philippines, il n'y a pas des voies goudronnées partout. Aller au-devant des populations montagnardes, c'est déjà très difficile.
Oui, les régions dans lesquelles on est, 90% des gens vont vivre et mourir sans croiser un médecin. Et on voit des pathologies extrêmement avancées, même quelquefois des pathologies bénignes. Moi, j'ai fait une petite intervention, une dame qui avait une espèce d'énorme masse qui pendait sous le bras, c'était une masse de peau, enfin, c'était pas du tout quelque chose de cancéreux ou de méchant, mais elle était là, elle devait avoir ça depuis des années, et elle avait simplement fait un petit sac en tissu pour mettre cette espèce de masse de chair dans son... Et c'était un truc qui s'est enlevé sous anesthésie locale de façon très facile, en 10 minutes, un quart d'heure, mais pour dire que voilà, il n'y a pas de médecin, on fait comme on est, enfin on fait avec ce qu'on a. Une autre bricole que j'ai faite, mais qui a rendu un grand service, c'était quelqu'un qui avait une plaie qui suppurait dans le pied depuis plusieurs années. Et les pieds, c'est comme le moyen de locomotion dans les montagnes aux Philippines. Et puis, j'ai commencé à ouvrir sous l'anesthésie locale et j'ai tiré une espèce de grande brindille, une espèce d'herbe qui était là depuis 3 ans et qui faisait suppurer. Bon, je pense que je ne suis pas assez pour voir la cicatrisation, mais je pense que ça aurait été beaucoup mieux après. Donc, effectivement, le niveau médical est extrêmement bas. Après, pour des choses plus... Nous, on n'a pas des moyens illimités, évidemment, notamment au point de vue chirurgical, même pour le reste, mais quand on fait des diagnostics ou qu'on suspecte des choses, on demande des examens complémentaires et après, le financement est pris en charge par la mission. Et on a eu cette année une petite journée au début de la mission où d'anciens malades de l'année dernière qui avaient été soignés, notamment quelques cancers opérés, sont venus pour nous remercier. Et à l'occasion, on m'a offert une quantité de bananes qui devait être à peu près égale à celle que je consomme pendant un an. Mais enfin bon, j'ai distribué ça, on a distribué ça, et entre tous les volontaires, on a réglé le problème des bananes assez rapidement. Enfin voilà, bon, c'est quelque chose de très touchant, enfin, parce que les Philippins ont un côté très, très touchant, et quelquefois un petit peu kitsch, mais enfin, voilà, c'était cette 19e, j'espère que l'année prochaine, la 20e, on fera quelque chose d'un petit peu solennel pour... La 20e l'année prochaine.
Alors j'ai vu que vous étiez allé dans un village à majorité musulmane.
Voilà,
c'est original,
fait, oui,
ça.
Oui, alors, enfin, pas majorité, mais enfin, une grande partie musulmane, parce qu'en fait, les premiers jours, on va dans les montagnes, mais bon, il faut se lever très tôt, parce qu'il y a 3 heures de route, enfin, si on peut appeler ça une route. C'est de plus en plus cimenté, non pas goudronné, mais cimenté d'une année sur l'autre. Et puis, les derniers jours, on fait quand même la grasse matinée jusqu'à 6 heures du matin, parce qu'on est un peu fatigué. On va dans des villages plus proches et dans la vallée. Donc, il y a beaucoup plus de musulmans. Et alors, on est allé dans une école pour donner des soins. Enfin, on avait installé un petit stand de soins. Et il y a certains volontaires qui ont été assez étonnés parce qu'ils ont vu sur l'emploi du temps de l'école que tous les matins, en fin de matinée, il y avait 3 quarts d'heure d'initiation aux valeurs musulmanes. Alors, ça a un petit peu choqué tout le monde. Mon épouse, moi, j'étais en train de bosser dans le Vimekis, dans mon coin, je m'étais rendu compte de rien, mais plusieurs personnes s'en sont rendues compte et elles ont été interrogées. Les gens, et puis surtout interroger Yoli, qui est l'infirmière recrutée par le docteur Dikès, qui organise la mission depuis le début. Et alors, elle nous a donné une explication qui permettait de comprendre un peu mieux, c'est qu'en fait, c'est des zones qui, il y a 30 ans, étaient complètement tenues par les musulmans. C'était vraiment la guerre avec le gouvernement. Ils envoyaient même des enfants à la guerre, des enfants qui se faisaient tuer. Pour finir, l'armée des Philippines a fini par gagner cette guerre. Il y a eu des négociations. Et alors, c'est un compromis qui a été accepté dans le cadre des négociations, pour que ça se passe à peu près bien. Donc maintenant, les catholiques et les musulmans cohabitent à peu près. Et ça pourrait être ce qu'on pourrait appeler peut-être une bonne façon de voir la notion du moindre mal, qui n'est pas toujours vrai, mais là, dans ce cas-là, c'est peut-être acceptable. On aurait la même chose ici, on irait vers le moins bien, on aurait du mal à le comprendre, mais là, ça, c'est dans le cadre quand même d'une régression de l'implantation musulmane. Et alors, à la fin de cette journée, tous les volontaires se sont tous mis à genoux, on a tous récité le chapelet dans la cour de l'école au milieu des musulmans. Voilà, donc ça s'est assez bien terminé. Je ne sais pas ce
C'est
que ça
intéressant parce que ça,
répond.
un mythe, ça fait penser aussi aux Vendéens ou aux Cristeros. C'est-à-dire que quand les populations s'enferment dans la foi, quel que soit le gouvernement, il est obligé d'en tenir compte. C'est comme ce qui s'est passé en Pologne, bien sûr. À propos je voudrais rappeler aux auditeurs que vous avez besoin de lunettes. C'est-à-dire que
Oui.
les vieilles lunettes peuvent avoir vraiment rendre la vie à des aveugles, parce que vous voyez, ces populations qui n'ont pas accès à la médecine, on peut. Alors que comment faut-il faire pour vous envoyer des lunettes?
Alors, ce qu'il faut, c'est les lunettes de récupération. Il faut absolument que les corrections soient marquées. Alors, ça, en général, votre opticien, vous note les corrections dessus. Et ensuite, il faut les envoyer. Alors, le mieux, c'est de rechercher sur Internet les coordonnées de la mission Rosa Mystica. Je ne les ai pas en tête là, mais enfin, si on tape mission Rosa Mystica, on va tomber sur le site de la mission. Et là, il y a une adresse où il y a des contacts mail et sur lesquels. Par lesquels vous pourrez nous envoyer des lunettes. En général, on peut les colliger en région parisienne et puis les récupérer quand on part aux Philippines. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on n'emmène pas. Par exemple, les médicaments, on ne va pas emmener des boîtes de Doliprane. Ça coûte 1 euro, une boîte de Doliprane, et on a 20 kilos dans nos valises. Donc, on préfère emmener soit du matériel un peu cher, soit effectivement des lunettes de récupération. Mais pour ce qui est des médicaments, en général, on les a là-bas à des prix assez bon marché. Donc, voilà, les lunettes, effectivement, ça fait partie des choses
Des lunettes
qui...
et des verres.
On fait des petits miracles là-bas. Ouais.
Et
Voilà,
des
donc,
verres ou des lunettes?
oui, est-ce que les verres sont
Non,
montés? Non.
les lunettes avec monture.
Il faut des
Alors
lunettes
après,
complètes, oui, évidemment.
notre opticienne, elle a les lunettes étalées sur des tables et puis elle prend ce qui est le plus adapté. Évidemment, c'est jamais la correction parfaite comme celle qu'on a ici, mais elle prend la plus proche, mais la plus proche, c'est déjà
Voilà,
beaucoup mieux quand
écoutez,
même, beaucoup.
merci docteur de nous rendre compte de cette mission qui vient de se dérouler. Quelques annonces en fin d'émission. D'une part, l'Institut Plantatio, dont on m'a dit pour ceux qui habitent dans la région lyonnaise ou à proximité de Roanne, l'Institut Plantatio fera le 25 et 26 avril une session sur le titre Ouvrir le débat sur la théorie de l'évolution. Donc c'est une session dans laquelle on pourra entendre cinq intervenants, un docteur en sciences physiques, Olivier-Henri Rousseau, qui a à son actif un livre sur Darwin, mais un livre plutôt critique sur Darwin. Donc, vous faites Institut Plantatio, et puis vous trouverez cette émission, Institut Plantatio, donc pour les gens qui habitent à proximité de Rohan. Le livre de Maxence Eckhard, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, Maxence Eckhard, nous l'avions reçu au mois de janvier. Ce livre est actuellement disponible sur Internet, et donc il faut aller sur le site des éditions d'Étiol. Bonne nouvelle d'ailleurs, ce livre vient d'être traduit en brésilien, donc ce qui est remarquable.
Il y avait juste un petit message, une remarque d'un auditeur qu'on n'a peut-être pas le temps de répondre, mais qui disait qu'il faisait remarquer qu'il ne fallait pas oublier le coût d'un procès de canonisation. Il avait rencontré quelqu'un qui avait obtenu la béatification de la bienheureuse Marie-Céline de Nogent en 2005, qui avait dû régler 20 000 euros à ses seuls frais.
Oh oui, c'est très peu par rapport à ce que nous avons dépensé pour la cause de Charles de Foucault, que nous avons dû récolter et dépenser.
Et enfin, donc, quelques informations utiles. Pour s'abonner au cahier de Saint-Raphaël, revue de l'ACIM, ACIM, Association catholique des infirmières, médecins et professionnels de la santé. Envoyez un chèque de 25 euros ou 30 euros pour un abonnement de soutien à ACIM, 2 route d'Equienne, 62 360 Saint-Étienne-au-Mont. Le téléphone 03 21 10 52 11. Et pour s'abonner à la revue Le CEP, envoyez un chèque de 45 euros au CEP, Sidex 811, 16 rue d'Auxerre, 89 460 Bazarne. On peut aussi le faire directement sur le site du CEP, le-cep.org, ou s'adresser au secrétariat à s.cep@wanadoo.fr, le téléphone 03 86 31 94 36.
Voilà, donc je souhaite un bon dimanche à tous les auditeurs et je vous dis au mois prochain et joyeux dimanche des Rimbaud.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Dominique Tasso, assisté de Bruno, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 29 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Et si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.